Monsieur Robert Comeau, qui est historien, professeur retraité à l'Université du Québec à Montréal et administrateur de la SOPOC, animera cette séance.
Alors, pour cet atelier sur la coopération vue par les acteurs du milieu universitaire, les intervenants prendront la parole dans l'ordre suivant. D'abord, Maître Nicole Lacasse, le deuxième intervenant, Frédéric Bove, et le troisième, Nelson Michaud. Alors, je vous présente rapidement, puisqu'il faut faire vite. Chaque intervenant a 7 minutes. Alors, je vous présente Maître Nicole Lacasse, qui est vice-rectrice associée aux études et activités internationales de l'Université Laval. Madame Lacasse assume notamment la responsabilité de l'orientation stratégique des secteurs du recrutement étudiant, des affaires internationales et du placement étudiant, ainsi que la direction de la formation continue. Professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'administration, elle a fondé en 2000 la chaire Stephen Jarilowski en gestion des affaires internationales de l'Université Laval, chaire qu'elle dirige jusqu'en 2008. Madame Lacasse a occupé différents postes de direction à la Faculté des sciences de l'administration et a dirigé plusieurs projets pour des organisations internationales telles que l'ACDI. Elle siège à différents conseils d'administration, notamment au Cégep de Lévis-Lauzon qu'elle préside. Elle a présidé aussi la table des vice-recteurs internationaux de la CREPUC pendant 4 années. Alors, Mme Lacasse, vous avez la parole pour 7 minutes.
Merci. Alors, la consigne, c'est d'être concis. D'abord, merci à la SOPOC, en particulier à M. Jean Fortin pour l'invitation. M. Fortin a beaucoup de qualités, sa plus grande étant d'être un grand amateur du Vaugirard. Voilà. M. Comeau, donc merci. M. Bove, M. Michaud. 7 minutes, c'est court, alors on va être assez précis. Ça va être en mode plutôt, je dirais, en point de forme. La coopération universitaire franco-québécoise, qu'est-ce qui se passe? Et j'aimais bien l'angle de l'invitation en disant, on ne veut pas un bilan, on veut une prospective, où on s'en va avec ça? Alors, je vous présente, je suis un prof d'université au départ, vous avez bien entendu, donc contexte, enjeu, piste d'action. Okay? Contexte, deux choses. La France et le Québec en coopération universitaire, pour toutes les universités francophones du Québec, c'est le principal partenaire. Université Laval, le tiers de nos actions internationales se font avec la France, mais le tiers veut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est très diversifié. Et ça fait partie du portrait de ce qu'on a à réfléchir pour l'avenir. Deuxième élément, la coopération à l'université, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Il faut jamais oublier que l'objectif, c'est de mieux remplir notre mission, formation, recherche, avancement de la société, nos services, d'où, quand on va parler, on va toujours nous parler de la mobilité de ici. La mobilité, ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est de bonifier nos programmes, de bonifier l'offre de formation, d'avancer en recherche, de donner des meilleurs services, d'où il ne faut pas confondre les moyens et les objectifs et toujours garder cette vision que, ben, il faut que ça serve à l'objectif de la mission universitaire, ce qu'on va faire, et que la coopération pour la coopération, c'est gentil, ça nous fait plaisir, mais c'est pas ça le but. Okay? Donc, vraiment, c'est un moyen. Des enjeux, je fais 5 enjeux. Puis, je vous dis, je suis en forme télégraphique, là. 5 enjeux dans notre relation France-Québec des universitaires. Le premier, c'est l'internationalisation accrue des universités. Il y a 50 ans, la France était vraiment un de nos partenaires exclusifs avec les États-Unis. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de partenariats dans à peu près tous les pays. Et donc, il y a une multiplication des coopérations, ce qui fait que le poids, évidemment, de la coopération France-Québec demeure important. Mais si on veut que ça demeure le partenariat privilégié, on va devoir travailler. Deuxième élément, c'est qu'en Europe aussi, ça a bougé. Avec tous les fonds européens, les coopérations intra-Europe sont de beaucoup stimulées par les fonds européens. Et ce qui donne aussi, pour nos collègues français, beaucoup de stimulants à travailler avec les autres universités d'Europe. Et quand on arrive dans les financements monétaires, qu'on l'a dit dans le dossier de la culture il y a quelques minutes, mais c'est aussi vrai pour nous. Donc, cet enjeu-là va arriver aussi à… Il y a une diversification Et ça va nous poser à nous un enjeu de réciprocité et d'attractivité. Nos profs, nos jeunes, est-ce que c'est encore la France qui est le phare qui brille? Bien, c'est moins évident que quand moi j'étais jeune il y a 30 ans et que je suis allée faire mon doctorat en France. OK? Donc, on a une attractivité qui est un enjeu avec l'internet. Deuxième élément, là je vais accélérer. L'économie du savoir, c'est joli, mais maintenant, ça veut dire que l'enseignement supérieur dans beaucoup de pays est vu comme un domaine, je dirais, un secteur économique comme un autre, avec un effet, c'est rendu de la concurrence en recherche, la concurrence pour le recrutement d'étudiants, de la concurrence pour les profs, et je suis toujours dans l'enjeu, mais ça change la donne aussi. Troisième élément, l'anglicisation de l'enseignement supérieur, j'en dis pas plus, je pense qu'autour de la table, beaucoup de gens sont conscientisés. Quatrième enjeu important, le numérique. La Ville de Québec l'a souligné, ça change la donne. Ça change, c'est une transformation majeure dans la pédagogie universitaire. Aujourd'hui, à l'Université Laval, on a près de 900 cours en ligne, 80 programmes. Okay? Dans la coopération, c'est un enjeu très réel. Et ça, c'est une opportunité, mais c'est aussi une menace à certains niveaux. Mes cours sont ouverts sur le monde, je n'ai pas besoin d'aller passer par mes collègues français pour les diffuser en France. Okay? Donc, c'est vraiment des enjeux. Cinquième enjeu, francophonie. Ça a été dit avant, probablement depuis le matin, plusieurs fois, mais on a un enjeu France-Québec en francophonie. Dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas beaucoup de pays développés qui sont francophones. D'où notre rôle dans l'enseignement supérieur, comme France et le Québec, est un rôle majeur. C'était mes cinq enjeux. Il me reste trois minutes pour les enjeux, trois minutes pour les nouveaux horizons. Les avenues de coopération qu'on peut développer. Évidemment, je vais essayer qu'il y ait un peu un miroir avec les enjeux. Première avenue importante, les partenariats stratégiques. Moi, dans mon vocabulaire, depuis plusieurs années, je dis, on doit passer de simples collaborations, où c'était de la mobilité individuelle, des projets individuels, à de la coproduction. Ça veut dire quoi? Bien, ce n'est pas de la mobilité qu'on veut, c'est des programmes conjoints en formation, c'est des co-tutelles, c'est des éléments où on produit ensemble des nouveaux programmes de formation, où on innove ensemble, et pas juste on s'échange du monde qui vont voir ce que l'autre fait. Donc, la coproduction. Deuxième élément, en recherche, c'est toujours dans ces partenariats plus stratégiques. On ne veut pas juste avoir un prof qui va voir le lab d'un autre, on veut des projets communs, on veut des unités mixtes internationales, on veut des laboratoires internationaux associés. La vague est commencée. On la voit prendre l'ampleur et ça va être avec la France. Donc, plus de profondeur, plus de production en commun. Au lieu de deux profs ont publié, c'est gentil, mais vraiment des projets. Mais ça va passer avec un soutien administratif et financier de ces choses-là. Si on les soutient entre l'Europe, entre les pays européens, les institutions européennes, et qu'il n'y a pas de soutien québécois, excusez-moi, mais il n'y en aura pas. Et jusqu'à date, je dirais, ça prend beaucoup d'imagination pour les réussir, ces choses-là. Deuxième élément, stimuler la mobilité. Je disais, l'attractivité, ce n'est plus un acquis. Le jeune aujourd'hui, autant le jeune étudiant que le nouveau prof, et c'est sur lui qu'il faut miser, ce n'est plus la France qui flash en disant « wow » nécessairement. Ça peut être la France, mais je veux dire, un jeune entre l'Australie, entre le Brésil, entre les autres destinations, il y a beaucoup de concurrence, je dirais, sur l'attractivité. Et tout nouveau, tout beau, hein? Donc, les vieilles relations qui marchent très bien, on les prend pour acquises, mais tout nouveau, tout beau, on investit sur les autres. Je pense qu'il y a un danger à ne pas investir assez sur cette mobilité France-Québec en la prenant pour acquise. Alors, on connaît ça dans les relations interpersonnelles. Quand on prend les choses pour acquis, ça ne s'améliore pas d'habitude. Et je pense qu'on prend pas mal pour acquis que ça marche bien entre le Québec et la France, la mobilité, et que peut-être c'est pas là qu'il faut investir. Et je dirais qu'on a le blâme des deux côtés gouvernemental, autant au Québec qu'en France, à ce niveau-là. On maintient, mais on ne peut pas dire qu'on investit massivement sur la relation. Et il faudrait peut-être penser à des modèles un peu différents. Là, je parle, par exemple, de mobilité professorale. Est-ce qu'on veut réinstaurer ce qu'il y avait eu au primaire et au secondaire il y a même des années, un nombre cible de profs qu'on veut échanger chaque année? Est-ce qu'on veut avoir des subventions pour ces professeurs-là qui bougeraient? Est-ce qu'on veut des doubles rattachements, tant qu'à réfléchir, une université française, une université québécoise, pour certains postes stratégiques, puisqu'on est en compétition internationale pour ces cerveaux-là? Est-ce qu'on veut faciliter du point de vue fiscal les unités mixtes internationales en disant que les longs séjours, on va peut-être faciliter ça dans ce domaine-là parce qu'on veut que ça marche. Donc, il y a des pistes. Puis la même chose pour les étudiants. Les droits de scolarité majorés, on a dit, c'est pas beaucoup. Ça change pas grand-chose. On les ramène au niveau canadien. Ben moi, chez moi, cette année, c'est moins 15 % de demande. OK? Je peux pas dire que c'est neutre. C'est pas vrai. OK? Mais on verra pas l'effet parce que l'année passée, ça paraissait pas. Là, je suis dans le cumulatif de 4 ans. On va voir l'effet cumulé dans 4 ans. Mais c'est pas vrai que c'est neutre. Excusez-moi, c'est faux. Alors, peut-être que au deuxième cycle, ça paraît pas puisque les tarifs n'ont pas bougé. Mais si on veut stimuler, il faut préserver le partenariat privilégié. Pour les jeunes, la mobilité, la reconnaissance professionnelle, les occasions de stage, il y a beaucoup d'opportunités. J'achève, monsieur? C'est bon. Le numérique, ça nous prend une ambition commune. OK? Le terrain actuellement en formation est occupé en anglais très largement. Et des pays ici, toute l'Afrique notamment, ben, quand c'est offert en anglais ouvert et que nous, c'est fermé, ben, ils prennent ce qu'on leur offre. Donc, si on veut positionner la francophonie, je pense qu'il faut un projet très ambitieux entre la France et le Québec pour la formation en enseignement supérieur qui doit être élaboré, voire même, on parle d'une stratégie québécoise, mais une stratégie commune pour le web, c'est mondial, donc pour qu'on y arrive mondialement. Je termine sur les publications en disant en français, aussi la Ville de Québec a dit, pas parce que c'est France-Québec qu'on se soucie de la langue française. Nos collègues sont moins sensibles que nous sur les publications en français et publier en français, ça nous pénalise dans les classements internationaux. C'est un vrai enjeu. J'ai pas la réponse, mais certainement qu'il faut se poser la question ensemble. Est-ce qu'on veut avoir une politique qu'il faut au moins publier bilingue? Est-ce qu'on veut avoir une politique? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on devrait aborder ces questions-là France-Québec de front et non pas chacun individuellement. Et je termine en disant que la coopération universitaire, ça a toujours été un des piliers importants de la coopération France-Québec. Pour en assurer la pérennité de cette relation très privilégiée, il faut continuer à y investir. Merci.
Merci. Alors, je présente tout de suite M. Frédéric Bove à ma gauche, qui est titulaire d'un master en économie et en ressources humaines, diplômé de Sciences Po Lyon et d'une licence d'histoire. M. Bove a été directeur général du réseau des villes Lumière, travaillant avec plus de 60 villes. À son arrivée à Montréal, il est devenu responsable de la mise en place de la vision du plan Lumière du quartier des spectacles et a ensuite rejoint, à titre de directeur de développement et stratégie, la célèbre entreprise Moment Factory, spécialisée en multimédia et divertissement. Il est actuellement délégué général du Centre Jacques Cartier, organisme de coopération entre le Québec et la région Rhône-Alpes et les capitales économiques de Montréal et Lyon, qui organise notamment les entretiens Jacques Cartier. Il est chargé de cours en entrepreneuriat et créativité à HEC Montréal. Il siège aussi à titre de secrétaire au sein du CA de Bixi, le système de vélo libre service de Montréal. À vous la parole, M. Bove.
Merci beaucoup.
Et l'image aussi.
Comment?
Et l'image aussi, oui.
Donc, 7 minutes et c'est parti. Bonjour, merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici. Rapidement, effectivement, le Centre Jacques Cartier, vous savez, travaille sur à rassembler au démarrage les communautés universitaires de la région Rhône-Alpes, aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes, parce que depuis le 1er janvier, avec la réforme de décentralisation, on a inclus donc Clermont-Ferrand et la région Auvergne, et le Québec, et effectivement, ces deux pôles économiques que sont les villes de Lyon et de Montréal qui ont un jumelage actif. Et aujourd'hui, la question du Centre Jacques Cartier, de ses entretiens Jacques Cartier, puis je ne vais pas revenir sur toutes les problématiques qui ont été largement dites et redites, mais il y a une question qui est quand même importante, c'est celle du contexte. Et le renouveau doit se faire aussi dans ce contexte-là. C'est un petit peu le sens de ma première diapositive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations, elles deviennent agiles. Elles ont une capacité d'adaptation qui doit être de plus en plus importante. Et on l'a bien dit, je pense que le monde qui existait auparavant, sur la francophonie, sur le monde sur lequel la francophonie s'est bâtie, il est absolument plus le même aujourd'hui. Les acteurs sont en train de changer, aussi de manière rapide. Il y a une recherche de l'optimum aussi. On passe d'un maximum, d'une économie du maximum, à une économie de l'optimum. Et ça aussi, ça change complètement les manières de penser, les manières d'agir, à travers travers effectivement aussi la révolution multimédia et numérique qui est à prendre en compte. Et les questions d'innovation, elles sont centrales. Et c'est un mot un peu à galvanner l'innovation, et j'en suis bien d'accord, mais quand même, quand on le regarde de manière très précise dans ce que je fais, ça pose réellement pour moi le sens même de l'action. Juste rapidement, je vais aller très très vite là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, simplement pour dire que la révolution, elle s'exerce sur quoi ? On passe d'une efficacité aujourd'hui de production, et vous allez voir que ça a un lien direct avec le caractère d'innovation, à une intensité de création qui passe par une société de la connaissance, une société de l'apprentissage qui est essentielle à ça. Et c'est en ça où pour le travail du Centre Jacques Cartier et des entretiens Jacques Cartier, qui est une série de conférences avec les universités, est importante. L'intensité de création, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut une capacité, et c'est ce qu'est la créativité en définitive, une capacité transversale à comprendre et à manier plusieurs langages, qu'il y a de celui de la culture et des arts, celui de la finance, celui de l'économie, celui du management, celui de la santé. Une capacité transversale actuellement totale qui traverse la société et le monde. Donc ça, c'est le contexte. Ah, j'ai mis deux fois la même slide, oui. Je vais être sûr de ne pas la louper. Une réflexion sur l'extension de la créativité vers l'innovation. On voit aussi que tout est lié maintenant. Il est très difficile de ne pas parler de modèle d'affaires, que ce soit en culture ou de partout, mais sans parler de créativité scientifique et technologique, créativité artistique et symbolique, managériale et sociale, les processus d'innovation. Tout ceci est intimement lié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les missions que se donne le Centre Jacques Cartier, essentiellement, et dans les conférences et les événements que l'on donne, il faut que tout ça soit présent. Rapidement aussi, qu'est-ce qu'un finalement un territoire d'innovation ? Nous avions auparavant les villes de Montréal, les villes de Québec, qui ont très bien parlé. Ils ont parlé de la question de l'attractivité de leur territoire. Pourquoi ils veulent devenir des territoires d'innovation ? Pourquoi ils le sont et pourquoi ils le sont en devenir ? Parce qu'on n'en est jamais vraiment arrivé à être un territoire d'innovation. Ça prend quoi ? Ça prend des personnes qui sont en capacité de créer de la connaissance, de la transférer et de la gérer. J'allais dire, les universitaires savent très bien le faire, et il y a un savoir-faire très important. Ça prend des personnes qui aussi en créent de la connaissance et qui ont cette capacité de la transférer et de l'amener au marché. Ce sont les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. Ça prend des financements, ça prend des fonds d'investissement, ça prend des organisations représentatives et des territoires qui donnent des stratégies, j'allais dire, cohérentes envers tout ça. Ça fait un territoire d'innovation. Et mon travail au niveau du Centre Jacques Cartier, c'est d'arriver avec les universités principales, universités du Québec, et de les grandes écoles, mais aussi celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, à travailler sur ces stratégies-là, d'amener le monde économique qui mise sur cette connaissance-là, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, il y a une accélération de cette volonté d'innovation, et bien de travailler sur des stratégies très claires et très, très précises, et je vais le dire tout de suite. Donc ça prend quoi, les thématiques sur lesquelles actuellement, en particulier, les territoires travaillent ? La santé et les sciences de la vie, révolution majeure en santé, on le voit, et donc c'est très important de voir aussi comme le numérique est en train de révolutionner actuellement le traitement du parcours de vie, un parcours de santé. L'énergie, le développement durable, bien entendu, les transports, les territoires, le numérique, je vous donne un exemple, on en a parlé tantôt, au niveau des entretiens Jacques Cartier, je suis en train de rassembler les communautés du numérique du Québec, c'est-à-dire autant les hubs Bleu Blanc Tech de Montréal, Québec numérique ici, mais aussi Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry, donc toutes ces communautés numérique ensemble pour qu'elles travaillent et qu'elles trouvent un intérêt commun. Parce que finalement, on a beaucoup parlé aussi de trouver cet intérêt commun. Il y a une question de réfléchir, il y a une question d'agir. Et j'allais dire que la francophonie aujourd'hui, elle existera, elle continuera à exister si on trouve l'intérêt d'agir ensemble, en français. Et ce sentiment-là est important, donc il faut que les gens arrivent à cristalliser les projets qu'ils ont envie de construire ensemble. J'irai rapidement aussi sur la question des finances. Il se trouve actuellement que j'ai mis aussi en contact Lyon Place Financière, Montréal Finance en particulier, qui sont des places financières. Ils réfléchissent ensemble, effectivement, à travailler ensemble, notamment sur la notion de fintech. Et dans la discussion, rapidement, il dit, mais nous, on a des contacts, Montréal a dit, on a des contacts avec Casablanca. Donc l'extension aussi au niveau des finances et au niveau de la gestion de ces places-là, au niveau de la francophonie, est venue naturellement. Et c'est très intéressant, notamment quand on voit que certains fonds d'investissement sont en train de se créer entre la région Rhône-Alpes, le Québec, certaines banques, notamment le mouvement des Jardins, Crédit Mutuel, Crédit Lyonnais, avec des fonds comme Ciparex, le fonds Émerillon qui investissent. Donc on voit qu'il y a déjà des mouvements sur lesquels on peut miser et sur lesquels on peut travailler. Donc je pourrais en citer certains et beaucoup. Et je vois que je suis en plus, il ne me reste plus qu'une minute. Et je vais finir à 7, vous verrez. Je vais même ralentir. Elle a... c'est un luxe que je vais me permettre en tant que Français, c'est incroyable. Non, mais sérieusement aussi sur la question de l'entrepreneuriat, puis je me suis permis de parler avec certains étudiants qui sont ici, je suis allé les voir à midi. Et finalement, qu'est-ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est comment on mobilise la jeunesse pour les amener vers la francophonie. Et ce que l'on a testé, c'est d'amener aussi une manière de parler du Québec quand on est en Rhône-Alpes, une manière de parler de Rhône-Alpes-Auvergne, de la France quand on est ici, un petit peu décalé, avec une proximité qui peut amener un dialogue global et un dialogue commun entre les générations, en définitive, à travers des expériences. Donc ça demande parfois d'amener des têtes d'affiche, comme je dis, qui permettent aussi de gérer une transmission, toujours en se projetant vers l'avenir, avec d'autres modèles type masterclass qui peuvent être diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà, je n'irai pas plus loin et je vous dirai merci. J'ai mis 7 minutes.
Merci, M. Brown. Notre troisième intervenant est M. Nelson Michaud, qui est directeur général de l'École nationale d'administration publique depuis juin 2011. Il a été auparavant directeur de l'enseignement et de la recherche, où son mandat a été notamment marqué par une importante impulsion à la recherche, une croissance constante des populations étudiantes. Il est professeur titulaire de sciences politiques et de relations internationales. Il a siégé au Conseil de recherche et sciences humaines du Canada, le CRSH, et au comité de sélection du Forum sur la sécurité et la défense pour l'attribution de bourses et de subventions liées à la recherche au ministère de la Défense nationale du Canada. Il siège présentement au Conseil de l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, qui a un rayonnement international important. Il a négocié des ententes institutionnelles en France, au Brésil, en Russie et au Vietnam, et dans plusieurs autres pays d'Afrique francophone, pour ne donner que quelques exemples. Je ne nommerai pas tous les articles et les titres de chapitres et de livres, mais il a aussi signé des ouvrages, dont « Secret d'État » et « Praxis de la science politique, droite et démocratie au Québec », et j'en passe. Alors, M. Michaud.
Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je dirais que ce que Nicole Lacasse vous a livré comme message, j'y souscris totalement, c'est la réalité des universités dans notre quotidien. Plutôt que d'aller dans des projets en tant que tels et savoir quoi faire, je prends un pas de recul et regarder davantage comment on pourrait orienter notre travail commun France-Québec. D'entrée de jeu, je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'on vit dans un monde de savoir sans frontières. C'est un monde qui interpelle toutes les disciplines, qui se traduit par un besoin de savoir nouveau, et puis la prise en compte de toutes les avancées dans le monde des connaissances. C'est un monde aussi qui a des exigences réaffirmées en termes d'innovation. Historiquement, les universités fabriquaient, entre guillemets, du savoir. Elle formait des personnes hautement qualifiées. Pardon. Mais de nos jours, les universités sont des institutions qui sont de plus en plus inscrites dans la chaîne d'innovation, et ce, dans tous les secteurs de la vie, et avec des partenaires un peu partout dans le monde. Donc, dans un tel environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur, pourquoi alimenter, vitaliser plus spécifiquement une coopération France-Québec? Nicole l'évoquait. On regarde simplement les efforts que le Brésil fait pour exporter ses doctorants. Ciencias Sin Fronteras, qui est une initiative pour envoyer des dizaines de milliers de doctorants partout dans le monde. On regarde l'agressivité de l'Australie, qui est un pays extrêmement, extrêmement actif dans la région Asie-Pacifique, mais dont l'influence s'étend un peu partout dans le monde anglo-saxon, peut-être à l'exception des États-Unis, mais encore là, les Américains se sentent chauffer les fesses, comme on dit au Québec. Pourquoi la France? D'abord parce qu'il y a une proximité culturelle, il y a un partage de langues communes, et c'est une langue qui ne sert pas simplement à communiquer et à commercer, mais c'est une langue aussi qui induit une manière de penser. Et ça, dans le monde universitaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne peut pas négliger cette dimension-là. De l'autre côté, le Québec a une dimension nord-américaine. Notre américanité fait en sorte qu'on a suffisamment de différences pour créer des alliances enrichissantes. Ce n'est pas du copier-coller qu'on va faire avec les institutions françaises, on est véritablement en dialogue. Elles ont un contexte avec tout ce qui se passe avec les programmes Erasmus de ce monde, avec la nouvelle approche depuis le protocole de Bologne. Et de notre côté, nous qui sommes très, très ancrés dans le cursus à l'américaine, ben, on est capable d'apporter des points de vue qui sont parfois complémentaires, parfois suffisamment différents pour qu'on apprenne les uns des autres. La langue française est évidemment le champ prioritaire sur lequel on doit absolument être en alerte. Le nombre, et pas de reproche à qui que ce soit qui est d'origine française dans la salle, mais l'an dernier, en vacances en France, on s'est amusé, mon épouse et moi, à regarder le téléjournal de 20 heures. Et à notre grand désarroi, on a constaté que dans chaque bulletin, dans chaque nouvelle, il y avait un minimum de 2 mots en anglais. Ça veut dire que c'est une anglicisation continuelle qu'on a à des heures de grande écoute. Ça se reflète dans l'ensemble des communications. On parlait du français comme moyen de publication. C'est vrai qu'il faut, et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec des collègues français, s'assurer d'avoir une dimension de reconnaissance du travail qui est fait en français. Dans un monde où les classements de Shanghai et de tout autre acabit font la loi dans le monde universitaire à cause de la compétition, on est extrêmement pénalisé. Et ici même au Québec, les universitaires qui publient en français sont pénalisés parce qu'on ne comptabilise même pas nos publications quand elles sont faites en français. C'est absolument incroyable. Il y a énormément de travail à faire là-dessus. Le côté numérique, on l'a évoqué, doit aussi être un élément sur lequel on travaille, d'une part du côté de la langue, d'autre part parce que ça devient un moyen de diffusion des connaissances qui demande une adaptation. Comme je disais à quelqu'un l'autre jour, les professeurs qu'on va engager dans 5 ans dans nos universités seront nés avec Internet à côté de leur bassinette. Et ça veut dire que c'est des gens qui auront une toute autre vision du monde, une toute autre manière de communiquer, autant avec leurs étudiants qu'avec le monde en général. Il faudra savoir en tenir compte. Ensuite, je vous dirais que, d'une manière générale, on s'aperçoit qu'on a une approche des problèmes, puis ce serait le dernier élément de réflexion que je vous laisserai, par rapport à notre société innovante. Déjà, l'innovation était une innovation nationale. On était fiers de nos produits nationaux. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement ça. On va avoir une dimension qui va être transnationale. Des défis qui sont partagés par plusieurs, et là, la France et le Québec, on peut entrer dans cette dynamique-là. Et ces défis-là ne se limitent pas à notre frontière nationale. Ils sont ouverts. Les universités ont une collaboration énorme à apporter là-dedans. Ça peut être aussi paranational, dans le sens où tout ce qui touche la société civile, par exemple, on regarde depuis le phénomène de Porto Alegre, les sociétés civiles travaillent pratiquement en parallèle de ce que font les gouvernements. Les frontières pour les sociétés civiles ne sont plus les frontières que le traité de Westphalie dans 1648 a établi. C'est une autre dimension. Donc, cette dimension paranationale est importante. Et finalement, il y a la dimension que j'appellerais ultranationale. C'est tout ce qui touche les normes qui sont données par des organismes internationaux. Allez dans à peu près n'importe quelle salle de bain où le ministère de la Santé est passé au Québec et vous allez peut-être encore trouver des affiches qui disent qu'il faut se toucher dans le coude, qu'il faut laver les mains 4 fois puis pas se donner la main si on a la grippe. Ça vient de l'OMS. C'est une norme internationale. J'ai vu les mêmes affiches en créole à Port-au-Prince, exactement les mêmes. Le message était le même. J'ai vu les mêmes affiches en Grande-Bretagne, j'ai vu les mêmes affiches en Espagne. C'est une norme internationale et nos États, nos sociétés doivent répondre à un paquet de ces normes-là. Alors, si c'est aussi basic, excusez le mot anglais, que de savoir comment tousser, ben vous imaginez que dans le commerce, dans le droit même, les traités internationaux qui influencent notre droit à l'interne, comment ça peut avoir d'impact. Donc, ces trois dimensions-là, transnationales, paranationales, ultranationales, vont demander de redéfinir complètement notre action et les universités, comme moteur de la réflexion dans une société, vont être interpellées. Et la France et le Québec, ayant une culture commune, peuvent collaborer ensemble là-dessus.
Alors, merci. Vous êtes vraiment discipliné. On a maintenant une courte période de questions. Alors, là, M. le Duc et M. là-bas et en troisième.
Michel le Duc.
Monsieur le Duc.
Quels sont les principaux problèmes que nos étudiants québécois rencontrent en France et vice-versa? L'autre façon de poser la question, est-ce qu'il y a une évolution? Parce que depuis 30 ans, 40 ans que ça existe, les échanges pour les étudiants, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans des problèmes d'adaptation tant du côté français que du côté québécois?
Je commence. Vous compléterez.
Oui.
Étudiants québécois en France. Je dirais, il y a ceux qui y vont et il y a ceux qui y vont pas. Pourquoi aussi? Je vais parler de ceux qui y vont pas, puis ensuite de ceux qui y vont, les problèmes qu'ils ont. Okay? Ceux qui n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'on se le fait poser par nos collègues français. Pourquoi vos étudiants, il n'y en a pas plus? D'abord, bien, la démographie, on a moins d'étudiants qu'eux autres. Okay? Donc, ça, c'est l'acquis, là, même en pourcentage. Le deuxième élément, souvent, l'étudiant québécois qui part va chercher une culture, je dirais, plus exotique et surtout une autre langue. Il va vouloir souvent, dans son échange, se renforcer dans une troisième langue, OK, souvent. Et donc, comme il parle déjà sa langue maternelle français, qui a acquis l'anglais, il va chercher soit à perfectionner son anglais, soit en espagnol, soit en portugais, soit en chinois, soit autrement. Donc, déjà, dans l'attractivité, il va y aller. Ceux qui y vont, pourquoi ils vont y aller? Ils vont y aller parce que leurs profs sont allés souvent et qu'ils ont une relation privilégiée avec un laboratoire ou un domaine et qu'ils disent « voilà, c'est la bonne place pour avancer dans ton domaine ». D'où la bonne mobilité étudiante, c'est pas de mettre des affiches puis de venir, c'est de renforcer les relations entre les centres, entre les profs, et les étudiants suivent. OK? Après ça, l'adaptation, dans cette logique-là, quand ils arrivent, il n'y a pas de problème majeur d'adaptation de nos étudiants en France, ils sont bien formés. Nos étudiants français qui arrivent ici s'adaptent aussi assez bien, mais sous-estiment souvent le décalage culturel. Parce que c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on n'est pas en Amérique du Nord, vous savez. Et notamment au niveau de la pédagogie, de nos exigences universitaires, de notre mode de fonctionnement. Donc, on doit les accompagner dans nos institutions parce que c'est pas, je répète, parce qu'ils comprennent bien le français, que c'est acquis qu'ils vont bien réussir. Et si on les accompagne pas, notamment, on est assez rigoureux dans le travail régulier puis nos évaluations qui reviennent assez souvent. Et on évalue vraiment... pas juste le savoir, mais aussi savoir-faire dans plusieurs de nos programmes. Et ils n'ont pas toujours eu à voir la manipulation, par exemple, en sciences et génie, en technologie, les mêmes accès à des labs que les nôtres. Donc, on doit accompagner. Souvent, nos collègues français vont arriver avec une très bonne base théorique, mais avec moins de pratique, je dirais, du terrain. Si je veux généraliser, puis là, vous allez me tirer des tomates, il y a des exceptions dans tous les domaines, puis il y a tout ça, mais je généralise, on y arrive. Donc, dans l'autre sens, il y a quand même... Dans les deux cas, ça demande une adaptation parce qu'on va sous-estimer, parce qu'on parle la même langue, le décalage culturel entre les deux pays, si je résume.
Voulez-vous ajouter quelque chose, M. Michaud?
Oui, très rapidement, parce que je suis de nouveau d'accord avec ce que Nicole vient de dire. C'est pour insister sur le rôle des professeurs, qui d'abord vont être ceux qui vont inciter les étudiants à faire des déplacements, qui vont être ceux qui vont accueillir en contrepartie les étudiants qui viennent de France, d'ailleurs aussi. Et c'est surtout que si ces professeurs-là sont engagés dans cette dynamique-là, ils vont avoir une sensibilité, ils vont avoir les bons réflexes, et ça va faire partie de la formation qu'ils vont donner à leurs étudiants. De sorte que l'étudiant rendu là-bas, il va beaucoup mieux s'adapter. Si un étudiant part seul, bien, là, ça dépend vraiment de l'individu. Mais il faut que nos professeurs soient sensibilisés et soient en mesure d'appuyer nos étudiants en ce sens-là.
Alors, c'est tout. Alors, monsieur, là-bas, au bout de la
Merci.
Table.
Merci. Mon nom, c'est Igor Anaté, étudiant à l'Université Laval. D'abord, je voudrais remercier les différents intervenants et conférenciers pour avoir souligné éloquemment la bonne santé de la relation entre la France et le Québec. Dans la coopération universitaire entre la France et le Québec, les différentes interventions ont souligné combien elles se porteraient bien. De là ont découlé d'ailleurs plusieurs ententes et accords conclus entre la France et le Québec qui permettent aux étudiants français et québécois de bénéficier des mêmes droits et avantages dans leur pays d'accueil que dans leur pays d'origine, des avantages liés au même droit de scolarité identique. Voilà que bon, certaines universités ont décidé de retirer aux étudiants français cette possibilité d'être exemptés des droits de scolarité supplémentaires. Et j'ai connu des étudiants français qui ont été en but contre cette mesure, qui ont dû retourner en France. Et quand on dit que la mobilité étudiante apparaît le pilier de la relation franco-québécoise, je me demande s'il y a un organe qui veille à l'application des accords conclus en matière d'éducation. Ma deuxième préoccupation concerne l'anglicisation de l'enseignement universitaire, pour reprendre les propos de Mme Lacasse. C'est vrai que c'est très, très préoccupant. Je connais d'éminents professeurs à l'Université Laval qui ne publient qu'en anglais. Je me demande si c'est pour des considérations économiques ou des questions de classement international. Sinon, pourquoi laisser à l'anglais le leadership linguistique sur le français, on va dire. Merci.
Alors, qui veut répondre? Madame Lacasse?
Je pars et puis on se complète. Là. Je pense qu'on fait un bon tandem. Alors, droit de scolarité, tout d'abord, ce ne sont pas les universités qui ont retiré les exemptions. C'est le gouvernement du Québec et le gouvernement français qui ont renégocié l'accord de base. Donc, c'est au-dessus de nos têtes, malheureusement. Alors, et qui surveille l'application? C'est le ministère de l'enseignement supérieur. Puis là, excusez-moi l'acronyme, il change un peu souvent. Là.
Aux six mois.
Non, mais c'est le ministère qui s'occupe de l'enseignement supérieur qui surveille l'application de ces règles en matière d'exemption. Et si nous accordons des exemptions, ce sont vraiment dans nos fonds de fonctionnement qu'on doit les accorder. Ce n'est pas un manque à gagner, c'est une facture. OK, si nous exemptons, puisque c'est une règle qui est gouvernementale. Les droits de scolarité au Québec pour les cours crédités sont fixés par le gouvernement du Québec. Et dans ce cas-là, avec entente sur la France. Votre deuxième élément sur la publication, pourquoi nos professeurs à Laval, parce qu'ils sont dans le même monde que les autres professeurs d'université, que les indices de citation de leurs articles, les personnes capables de lire un article en anglais dans le monde sont plus nombreuses que les personnes scientifiques capables de lire. Les indices de citation vont être très importants dans les classements internationaux du prof, de ses subventions, de son impact en recherche, et c'est « publish or perish », un bon anglicisme, disons. Donc, si vous ne publiez pas en anglais, vous vous pénalisez dans vos demandes de subventions. Le système est là, et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir globalement, qu'on ne peut pas, une institution, y réfléchir. Et il faut y réfléchir avec les autres pays francophones, puisqu'on a tous le même enjeu. Publier en français, c'est se pénaliser actuellement dans les classements internationaux, dans votre impact en recherche au niveau international, dans la reconnaissance de vous et de votre équipe au niveau international. Et ça veut dire dans les subventions que vous allez ou non obtenir. Et donc, c'est pas juste un enjeu de langue française, c'est un enjeu de la place qu'on fait à la langue française au niveau international, scientifique, dans les publications. Et d'où ça doit être abordé à très haut niveau.
Ajouter quelque chose?
Rapidement, pour ce qui est des frais de scolarité, c'est tout à fait... j'étais dans les galeries quand le ministre des Finances a annoncé ça, puis en bas de moi, il y avait le sous-ministre des Relations internationales, puis il circulait sur sa chaise, il l'a appris en même temps que nous autres. Donc, c'est véritablement une décision gouvernementale qui date de quelques années déjà. On a, en plus de ça, la possibilité, quand je parlais de la capacité du professeur d'accueillir des étudiants. Si un professeur a des fonds de recherche, justement, qui peut donner des bourses qui peuvent compenser la différence de frais de scolarité, c'est un moyen d'intégration qui, en tout cas chez nous, il y a des profs qui l'utilisent avec beaucoup de succès. Et les publications, c'est un fait. Je reviens un peu sur ce que je disais. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est pas vrai qu'on pense en français comme on pense en anglais, comme on pense en espagnol. Il y a des concepts qui sont propres à la langue française, qui décrivent des choses particulières. Et ce faisant, en se privant d'utiliser ce véhicule-là du savoir, on coupe un pan de la richesse du savoir. Et ça, on le fait justement parce que si je n'ai pas 3 articles dans les 5 dernières années d'une revue de catégorie 1, bien, quand j'ai déposé une demande de subvention, même au CRSH, même au FQRSC, je vais être pénalisé parce que les profs qui vont analyser ça, eux autres, vont regarder la grille, il n'y a pas publié là, il n'y a pas publié là. Donc, sa recherche n'est pas une recherche de calibre qui mérite d'être subventionnée. Quand on considère qu'en sciences sociales, en sciences humaines, au CRSH, l'an dernier, c'était 22 % de taux de succès des subventions. Cette année, ils ont diminué le montant des subventions pour monter le taux de succès à 30 %. Mais ça, ça veut dire qu'il y a 7 profs sur 10 qui veulent avoir des bourses pour leurs étudiants par les fonds de recherche qui se font dire non. Et c'est pas rien que parce qu'il est publié en français, mais vous imaginez dans un monde aussi compétitif pour aller chercher des fonds de recherche, si vous vous donnez 2 prises parce que vous n'avez pas la bonne cote, parce que vous n'avez pas assez d'articles publiés dans des revues de niveau 1, qui sont habituellement des revues anglophones, ou compilées par les Thomson Reuters de ce monde, qui est la grande maison là, qui donne les cotes, ben c'est vous pénalisez votre université et surtout, vous pénalisez vos doctorants, vos gens à la maîtrise, que vous ne pourrez pas engager comme adjoint de recherche, à qui vous ne pourrez pas donner de bourse. Alors, c'est vraiment un cercle vicieux sur lequel il faut s'attaquer.
Monsieur Monnière.
Ces analyses sont impeccables. Madame Lacasse, vous avez soulevé une problématique qui est, à mon avis, centrale, celle de la concurrence interuniversitaire entre universités québécoises et entre les universités québécoises et les universités françaises. Et le drame de cette compétition, c'est qu'en formation à distance, en formation numérique, l'Université Laval, bien sûr, a 900 cours à offrir. L'Université de Montréal en a 600. L'UQAM en a 800, je ne sais plus. Chacun travaille en silo et on est lessivé sur le marché mondial par des universités anglophones. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de consortium franco-québécois pour produire une offre de cours numérique qui serait utile à la formation des jeunes Africains, qui serait dans leur langue et qui reflèterait les plus hauts niveaux de savoir qu'on puisse produire en Occident. Parce que Québec-France, nous avons atteint les très hauts niveaux de compétences. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de se concerter, qu'il n'y a pas d'organisme, il y en a déjà eu des organismes qui faisaient cette concertation, mais on les a abolis. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, chacun s'en va en ordre dispersé sur le marché mondial de la formation numérique. Et ne serait-ce pas là une mission importante pour la coopération franco-québécoise?
Madame Lacasse.
Oui, il y a plusieurs questions dans votre très intéressant. Premier élément, personne n'est sur le marché mondial actuellement. Nous n'avons pas, personne n'a réussi à sortir, que ce soit la TELUC, l'Université Laval, l'Université de Montréal. Le nombre de crédits réalisés à l'étranger par nos cours à distance, c'est à peu près inexistant. Il n'y en a pas. Donc, on parle d'un marché qui est tout à faire. Et pourquoi on n'a pas encore réussi à sortir? Vous pointez, effectivement, on est en rang désordonné. Premier élément. Nos collègues français sont aussi en rang désordonné. Il n'y a pas, sauf le CNAM en France, personne qui a un impact significatif à l'international dans la formation à distance en ligne. Et ceux qui ont un impact, ce sont des consortiums privés qu'on fournit de nos cours, par ailleurs. Donc, le modèle d'affaires reste à développer. Pourquoi maintenant, nous, on n'a pas de grand consortium québécois? Je pense que le modèle financier des universités, le modèle de financement des gouvernements, se prête à une concurrence très féroce. Tant qu'il n'y aura un financement par crédit étudiant des universités, nous n'avons aucun incitatif à travailler en commun, à mettre notre offre de cours, puisque je baisse mon financement si c'est l'autre est là. Donc, je dirais pourquoi? Parce que nous sommes pris à la gorge au niveau de financement des universités et que nous sommes financés par crédit par étudiant. Et tant que cet état de fait sera là, il n'y aura pas. Si des entreprises, en fait, il y a une seule tarte et qu'ils se la divisent et que c'est par leur nombre de clients, bien, chacun va préserver tranquillement ses clients. Donc, le milieu de l'économie, le financement, le mode de financement n'est pas un incitatif. Après, il va falloir des processeurs un matin. Là. Il va falloir arriver au point parce que pendant ce temps-là, le marché du numérique, il ne nous attend pas qu'on s'entende. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas actuellement d'offres intéressantes sur le marché international et mises en commun. Pendant ce temps-là, tu as eCampus Ontario, Donc, en Colombie-Britannique, un unique campus, tu t'en vas, les autres avancent pendant qu'on est là. Mais là, c'est mon analyse très personnelle, ce n'est pas l'Université Laval. Par ailleurs, dernier point, vous avez parlé de l'Afrique. Oui, mais il y a une pensée magique aussi que des grands organismes ont en francophonie. C'est gratuit parce que c'est en ligne. Puis moi, ma réponse à ça, j'ai dit, mes profs ont une mauvaise habitude, hein, ils veulent être payés pour ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas gratuit parce que c'est en ligne. Et donc, souvent, on a une pensée magique, on vient nous voir. Votre bibliothèque numérique, ouvrez-nous ça, s'il vous plaît. Tous mes collaborateurs de pays d'Afrique viennent me voir. Madame Lacasse, votre grande bibliothèque numérique. Savez-vous qu'on paye à l'abonnement, nous autres aussi? Si j'ai 50 000 utilisateurs de plus, ça, je viens de doubler ma facture et que je n'ai pas les moyens de le faire. Et donc, il y a une pensée magique que parce que c'est en ligne, c'est gratuit. Mais il y a de la propriété intellectuelle, il y a de l'investissement de professeurs derrière. Et ce n'est pas parce que le cours existe qu'on va l'ouvrir à l'univers entier. Il y a des gens, et là, on parle de l'innovation et de la protection. Et donc, il y a des vrais enjeux derrière l'ouverture sur l'Afrique. Et moi, je me désole, on va régulièrement dans ce débat avec nos collègues des pays du Sud. C'est toujours la même question. Votre banque de cours, s'il vous plaît, ouvrez-les. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et vous savez, même si on l'ouvrait, les livres sont à bibliothèque, ça ne veut pas dire que ça prend quand même des profs en arrière pour enseigner. D'accord. Merci.
Dernière question. Vous avez pesé sur vous. Vous autres qui me passionnent. Hein?
Très, très rapidement, parce qu'il y a une dernière question après.
Et la liberté académique des professeurs. Parce que même dans un département, deux profs qui, deux sessions de suite, vont donner le même cours ne le donneront pas exactement de la même manière. Alors, ça aussi, de penser qu'on pourrait avoir un cours uniforme, sans compter un cours de droit administratif, par exemple, en France ou chez nous, n'aura pas du tout le même contenu. Alors, il y a plusieurs barrières comme ça qui, pour une idée qui est vraiment porteuse, demanderait à être considérée avant de la mettre en œuvre.
Brièvement, M. Garneau.
J'avais deux questions à poser, puis M. Monnière a posé ma deuxième, donc ça va être plus court. Donc, il y avait une communauté de vues sur la question. Puis ça revient sur un point que j'ai mentionné dans ma conférence ce matin. Il me semble que, quand je disais qu'une des propositions que je faisais, c'était d'investir sur l'éducation et le développement d'éducation en Afrique, c'est un sujet sur lequel je ne vous ai pas entendu, puis j'aimerais vous entendre. Je vais vous donner le contexte. J'ai travaillé pendant une bonne partie de l'an dernier à une conférence des pays de l'océan Indien qui ont créé un observatoire de la parentalité. Donc, et puis j'ai été conférencier aussi là-bas. J'ai rencontré peut-être 400 personnes de tous les pays de la zone francophone-anglophone qui travaillent dans le domaine de la petite enfance, de l'éducation et tout ça. Il y a une pénurie énorme de formateurs et d'accompagnement, et une pénurie énorme d'orthopédagogues et de psychopédagogues particulièrement, et ils n'ont pas de faculté qui enseigne ces disciplines là-bas. Et donc, la question était sur l'offre en ligne d'éducation en pédagogie, d'enseignement supérieur en pédagogie, parce que dans le fond, si on veut que la francophonie rayonne, c'est le point que je faisais ce matin, il faut que l'Afrique se développe. Si l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique soit éduquée. Et il me semble que de tous les sujets dont vous avez discuté, ce sont des sujets parfaits du point de vue de la coopération interuniversitaire. Mais si j'avais à faire des recommandations à un gouvernement pour dire où vous devez mettre vos fonds en enseignement supérieur, c'est en enseignement de la pédagogie. C'est puis la diffusion de cette offre-là pour accélérer, puis non seulement en pédagogie, mais en gestion des systèmes d'éducation. Je pourrais vous en parler longtemps aussi des problèmes de Maurice sur ça. Et donc, ma question, c'est un peu de vous entendre sur ce qui se passe en éducation. Vous avez parlé des problèmes de financement de la téléuniversité, mais un des problèmes énormes aussi, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas développé le modèle d'affaires pour baisser les coûts de la formation en TELUC. C'est-à-dire qu'on charge présentement le même prix à un étudiant qui se forme à distance que s'il était là en personne. Et si on veut former des Africains en pédagogie, ce n'est pas des gens qui vont faire de l'argent comme des médecins puis des gestionnaires, c'est des gens qui vont être souvent avec des salaires de crève-faim en Afrique pour enseigner. Si on veut monter la qualité pédagogique de ces gens-là, puis offrir... C'est pas juste de la formation, en pensant que c'est du jumelage et tout ça, d'expertise. Et donc voilà, je ne vous ai pas entendu parler sur ça, et ça me semble être le domaine le plus crucial où la France et le Québec, au niveau de ces institutions d'enseignement supérieur, pourraient intervenir pour faire avancer la francophonie, évidemment, parce que c'est pas juste la France-Québec, là, à ce moment-là, c'est la francophonie, dans le sens.
Faculté des sciences d'éducation chez nous, on n'a pas parlé, parce que dans 7 minutes, il fallait quand même choisir nos batailles. Mais Et ça, c'est spécifique non pas à la coopération universitaire, mais vraiment, d'abord, je vais vous rassurer, ça nous préoccupe beaucoup. On en fait du Nord-Sud. On va être présent dans la formation de formateurs, autant en évaluation, gestion du primaire, secondaire, de l'enseignement, qu'en pédagogie en transfert. On a des projets au Gabon, au Congo, en Haïti, dans ce domaine-là. C'est j'appelle ça ma solidarité universitaire, personnellement. OK? Donc, mes relations Nord-Sud. Par ailleurs, on va le faire quand il y a du financement pour le faire. C'est bête comme ça, parce que je ne peux pas prendre les droits de scolarité ou ce qui m'est versé en subvention pour former des étudiants québécois, pour aller former des étudiants, même si j'aimerais bien, dans ma grande mission universitaire de diffusion du savoir. Donc, on vient toujours au financement en disant, vous dites, est-ce que hors territoire, c'est le même prix? Oui, mais moi, mon professeur, il a la même convention collective, il est payé le même prix qu'il donne son cours au Gabon qu'il donne à Québec. OK? C'est plate de même, la vie, là. Et donc, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais enjeux financiers derrière ça. Et oui, il faut que les gouvernements s'y prêtent parce qu'il n'aura pas de développement du Sud si on n'investit pas dans les choses. Les enseignants primaires secondaires ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils savent. Donc, on doit investir, on doit développer des outils, mais on doit prévoir aussi des programmes de coopération Nord-Sud qui soutiennent cette aide-là. Les universités sont prêtes à le faire, mais quand c'est financé, parce que c'est des projets différents.
Un autre secteur où nous sommes très présents, c'est l'administration publique, évidemment. Et si un pays n'a pas une administration publique solide, prévisible, les investisseurs n'iront pas. Et là-dessus, on travaille très fort avec et des universités et des ENA en Afrique. On a eu, au cours des dernières années, au-delà d'une trentaine de pays d'Afrique où est-ce qu'on était intervenu, d'une manière ou d'une autre, à différentes reprises. Et on le fait soit directement avec des institutions locales, soit avec des institutions françaises. Meilleur exemple, on est en train de réformer l'ENA du Gabon en partenariat avec l'ENA de France. L'ENA de France prend la partie où est-ce qu'elle a une expertise. On prend la partie où nous avons une expertise. C'est nous qui avons le leadership. Ça nous a toujours fait plaisir quand on a pu dire « Léna, venez à bord de notre bateau ». Mais dans ce sens-là, on a véritablement fait un partenariat nord-sud avec des expertises complémentaires et ça fonctionne très bien dans un secteur qui est extrêmement névralgique.
Alors, merci pour vos interventions et j'invite Mme Tremblay à prendre la relève.